Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1100, en ce samedi 3 avril 2021. On est ensemble de 13h à 15h sur le 666 comme chaque samedi. Et aujourd'hui, c'est Little Bob qui est non seulement disque du mois avec We Need Hope chez Very Chords, mais également l'invité de toute cette émission, c'est-à-dire que pendant 2 heures, ce sera du Little Bob et pas seulement extrait de We Need Hope. On va revenir un petit peu sur sa carrière discographique et puis on va revenir sur plein d'aspects de sa vie. Voilà. Cette interview dans laquelle il nous livre plein de secrets, tous les secrets de fabrication d'un véritable héros, d'une véritable légende du rock français. Voilà, Monsieur Little Bob, qu'on va écouter tout de suite avec un extrait d'un live de 2003 chez Dixie Frog Records. Ça s'appelle tout simplement Ringo les Vieux.
Sound like war. We will love you.
Little Bob, enregistré au Trabendo à Paris, c'était en mars 2003 sur l'album Play It Loud Live 2003 chez Dixie Frog Records. Il est bien évident que résumer une carrière de 45 ans pro et 15 ans amateur, c'est-à-dire 60 ans de scène pour un garçon comme Little Bob en 2 heures seulement, c'est absolument impossible. Mais il y avait quand même un certain nombre de titres à côté desquels il était impossible également de passer, dont celui-ci. Vous allez forcément reconnaître, là encore un live. On est en 2007, live au Docklands, au Havre. Voici Riot in Toulouse.
Un hommage à tous ceux qui viennent du sud-ouest.
Yeah.
Rien de tel que le live, effectivement. Little Bob. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous embarque pour 2 heures avec Little Bob. Interview pour Sweet Home Chicago sur le 666. Little Bob qui vient de sortir cet album, We Need Hope.
We Need Hope.
Roberto Piazza est né le 10 mai 1945 à Alessandria, dans le Piémont, au milieu d'un triangle Gênes, Turin, Milan. Il est arrivé au Havre en 1958 à l'âge de 13 ans et il y vit toujours. Dès 1961, il débute à 16 ans comme chanteur dans les Apaches. Après, il y a eu les Red Devils. De 71 à 89, c'est la grande aventure Little Bob Story. De 89 à 2011, il joue sous son nom, sous son propre nom, Little Bob. Et de 2011 à aujourd'hui, c'est le groupe Little Bob Blues Bastards. Voilà ce que dit le service de presse de V-Records à propos de ce tout nouvel album. Quand on s'appelle Little Bob, après 45 ans de carrière, 23 disques au compteur et des milliers de concerts, on ne retourne pas en studio juste pour enregistrer un nouveau disque. Ce nouveau disque, c'est un cri d'espoir, celui d'un homme qui a perdu Mimi, l'amour de sa vie, mais hurle son amour de la vie. Ses chansons sont des portes ouvertes sur la révolte, l'amour, la lutte, l'amitié. Elles nous réveillent et nous secouent en pleine crise sanitaire, tous enfermés derrière nos masques, et nous redonnent envie d'avenir. Son instrument, c'est sa voix, et Bob chante le blues de l'homme seul et le rock'n'roll sauvage du rebelle. Il est comme le partisan dans sa reprise bluesy de Bella Ciao, celui qui se battra toujours pour la liberté. Avec son gang de Blues Bastards électriques, il nous tire vers le haut, là où on respire mieux. We need hope. Oui, Little Bob, on a tous besoin d'espoir et de disques comme celui-ci. Au téléphone avec Little Bob. Bonjour Bob, comment ça va ?
Salut, salut.
Très heureux de pouvoir te parler à nouveau. C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de se parler à propos de ta discographie. Je me souviens, la dernière fois, c'était en mai 2015 pour l'album Howling. Précédemment, en février 2011, pour le concert au Subok que tu avais fait avec les Blues Bastards. En 2009, en juin, c'était pour l'album Time to Blast. J'ai envie de dire, en guise de première question, presque 60 ans après avoir foulé ta première scène, plus de 45 ans en tout cas après la création de Little Bob Story, quel regard est-ce que tu portes sur ta propre carrière, Bob ?
Bah, c'est une aventure d'abord. Une vraie aventure. Hein. Ça a commencé vraiment à partir de 75, quoi.
La véritable aventure a commencé en 75, c'est ça ?
Ben oui, parce que c'était amateur. Et amateur, c'est... D'accord, j'ai toujours aimé la musique. Même quand je suis né, en sortant du ventre de ma mère, j'ai fait un waouh style blues, tu vois. Et après le truc vraiment, on jouait, on s'amusait, on allait jouer, je venais souvent même du côté de Caen, par là, en amateur. Mais amateur, c'est pas pareil, t'es pas obligé de gagner ta vie, t'es pas obligé d'assurer un max obligé, quoi.
Il y a deux parties dans ta carrière, la partie amateur d'abord. Et puis après la partie amateur, la partie pro que tu situes vers, c'est ça, les années 75, quoi.
Ouais, c'est ça, premier 45 tours, première tournée en Angleterre au mois de novembre 75, 12 concerts en 12 jours. On n'avait jamais fait plus de 2 concerts d'affilée, là du coup 12 concerts d'affilée, c'est quelque chose. Et puis après, premier album en 73, et ainsi de suite, voilà, j'en suis à 18 albums studio, celui-là, Winnie Dope, 18e album studio qui sort, et il y a 5 lives importants, puisque
ouais.
Le premier était à Londres, le deuxième au Havre, après il y a eu Paris, et puis voilà, 5.
Voilà.
Donc en tout, ça fait 23 disques sortis en 45 ans.
23 disques sortis, on va dire un disque tous les deux ans en moyenne, y compris celui-ci, We Need Hope, qu'on va passer au crible dans cette interview, Bob. La scène en Angleterre dans les années 70, c'est des souvenirs des années punk finalement. C'est vraiment l'explosion de ce style-là en 76-77.
Ouais, juste avant nous. Nous, on y est arrivés juste avant. Et d'ailleurs, début 76, là où on jouait, il y avait quelques punk et musicien punk qui venaient nous voir jouer parce que bah, ils trouvaient qu'on jouait bien et que nous on a été, on nous a souvent mis dans le pop rock, mais c'est pas vrai, on n'a jamais fait du pop rock. J'aimais bien le pop rock, j'aimais bien les Feel Good, j'aimais bien les Hot Rods et tous les autres groupes.
Et les Inmates, ouais.
Voilà, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était du rock'n'roll à fond les ballons, même si le blues, ouais, je veux dire, le premier album 33 tours que j'ai acheté, c'est un album de Howlin' Wolf, tu vois.
Donc, oui, et c'était pas l'album Rocking Chair par hasard?
C'était un album qui était sorti chez Barclay.
D'accord, d'accord.
Dedans, j'avais copié d'ailleurs une chanson qui est sur le premier album, You'll Be Mine. Voilà, que même les Feel Good ont repris après.
Ouais.
Qu'il y avait un journal anglais qui avait dit la version de Little Bob Story, de French Band, est meilleure que celle de Feel Good. J'aimais ces groupes-là, puis on a été mis un peu, parce qu'on jouait du rock and roll, matinée blues, parce que le blues a toujours été là dès le départ.
Ouais.
Moi, je suis né avec le blues parce que je l'ai toujours eu en moi, dans ma carcasse.
Ça fait partie de ton ADN, c'est vrai. Quand tu étais tout jeune, tes parents ont parcouru 1000 km pour changer de vie. Hein. Ils ont fait Alessandria, Le Havre. Je voulais savoir si c'était une idée qui, toi, t'avais à un moment donné de traverser l'esprit, de toi aussi refaire, pas forcément le voyage à l'envers, mais en tout cas, quitter Le Havre, partir. Pourquoi être resté au Havre? Quel rapport est-ce que tu entretiens avec cette ville depuis tout ce temps-là?
Je remercie mon père. Parce que avant il était commerçant, il a fait 2 faillites et donc il a été obligé de se barrer de cette ville un peu que j'aime beaucoup, Alessandria, mais qui est un peu bourge, tu vois.
Ouais. Et toi, de ton côté, tu es resté au Havre tout ce temps-là.
Je les remercie d'être venu ici, même si ma mère n'était pas très heureuse au départ, mais je les remercie d'être venu parce que ici on a pu pousser, faire notre vie, aussi bien ma soeur que mon frère. Je ne crois pas que j'aurais fait ça en Italie.
Qu'est-ce qui te plaît dans cette ville du Havre? Est-ce que c'est le fait que c'était une ville qui renaissait de ses cendres à l'époque où tu y arrivais?
Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est une ville ouvrière. Donc, j'aime bien les gens qui se bagarrent, les gens qui souffrent, tu vois. Et donc, j'étais bien ici. Et puis au départ, je suis arrivé, j'ai eu le blues tout de suite. Parce qu'il faisait un temps vraiment difficile à encaisser.
Ouais.
Moi, venant du soleil d'Alessandria, arrivant là, et 2 jours après mon arrivée, il avait neigé carrément, tu vois.
Pile juste au nord de la Seine, effectivement, pour les Italiens, j'imagine que ça doit être le cercle polaire, Le Havre. J'ai quelques questions, Bob, à propos de toutes ces rencontres qui ont émaillé, que ce soit ta carrière ou ta vie personnelle. Et puis, à travers ça, j'ai un certain nombre de noms. J'ai noté des noms de musiciens, mais tu verras pas seulement. Tout d'abord, les Dogs, un groupe qui s'appelle les Dogs. Tu les as côtoyés, tu les as connus?
Oh oui, bien sûr, depuis le départ. Ils étaient même venus faire un concert en 75 au Havre et un truc qui s'appelait le Rock'n'Roll Christmas. Et il y avait des groupes anglais, il y avait Sean Tyler et Nick Garvey avec leur groupe. Et il y avait nous, il y avait eux qui venaient avant. Ils avaient des cheveux très longs tous. Et ça ressemblait plutôt au Flamingo Vise à l'époque.
Ouais.
Voilà. Et qu'ils étaient déjà là, avec Zox à la basse, et voilà, c'était un bon groupe.
En préparant cette interview, Bob, je suis tombé sur une petite vidéo d'époque, on remonte à 1986, où tu faisais un bœuf avec le groupe OTH. Tu t'en souviens ou pas du tout de ça?
Ah oui, je m'en souviens, c'était dans une tournée avec le pianiste Joël Drouin. Voilà, c'est un pianiste de jazz et qui, avec moi, a donné blues parce qu'on jouait ensemble. On a fait à peu près 150 concerts à cette époque-là. Mmh. Alternativement avec mes concerts avec Little Love Story, je tournais avec lui, ça m'a beaucoup aidé parce que j'entendais ma voix d'une autre manière, sans les murs d'ampli derrière, sans la batterie qui cogne le tempo. Et j'interprétais mes balades à moi, hein. J'interprétais mes blues à moi, puis j'interprétais des standards du blues, plus du Tom Waits, parce que le Tom Waits, il y avait le truc du blues aussi.
Tom Waits, oui, effectivement, voilà. D'autres noms qu'on pourrait citer. On va revenir sur un autre bonhomme qui a pu collaborer avec toi de façon brève. Mais c'était en 87 avec le fameux titre Ringo Lévio. Tu vois de qui je veux parler, Lenny Kilmister de Motorhead. Est-ce qu'on peut dire que Lemmy, c'était un mec comme toi, un mec franc et entier? Est-ce que vous avez une parenté tous les deux?
On s'est rencontrés la première fois le 15 août 76. On jouait avant eux à la Roundhouse de Londres. La Roundhouse, c'est une ancienne gare de locomotives et c'est à Camden, tu vois, dans le nord de Londres. Et il y avait Edgar Broughton Band, après il y avait eux et après il y avait nous. Et en fait, on s'est retrouvés, tu vois, il y avait le matos de tous les groupes, et nous, on s'est retrouvés devant. Je me rappelle, j'avais le bout des bottes qui sortait du bord de la scène,
oui.
Et j'avais le derrière qui était sur la grosse caisse de Minot, mon batteur. On n'avait pas de place, les lumières étaient derrière nous. Alors, on était furax, tu vois, donc je suis rentré dedans comme un malade, comme je faisais à l'époque. Et en fait, Lévi, il a vu ça, et il a été impressionné, il s'est dit... Putain, voilà un mec qui a des choses à dire et qui en veut au monde entier.
Yes.
Donc voilà, il m'a suivi. Après, on a fait un autre concert avec lui. Toujours la Roundhouse, qui était une salle de 2500 places, hein, quoi, tout de même, qui était pleine. Avec un public de Hells Angels et de Motards devant nous. Et il y avait les Stranglers. Eux, ils jouaient en vedette, Motorhead. Et il y avait les Stranglers avant et il y avait nous avant. Et avant nous, il y avait les Gorillaz aussi.
C'était en 76, Bob.
Ouais, c'était en... le deuxième, c'était un peu plus loin. Peut-être le Eve's Day, c'est-à-dire le jour de l'an. Hein. Donc, 77, le 1er janvier. Et c'était de nouveau un beau concert où on a fait partie. Et quand ça, d'un seul coup, tu touches 2500 personnes.
Mmh, ah oui, énorme, ouais.
Les gens marchent, quoi. Les gens marchaient parce que... On rentrait tellement dedans à l'époque, on était tellement féroce qu'on accrochait. Mais moi, je me battais parce que j'avais le blues. Parce que quand je me regardais dans la glace, quand j'étais môme, je me plaisais pas. C'est pour ça que j'ai tardé autant à devenir pro, tu vois, parce que je tournais
D'accord. En
amateur.
Mmh.
Mais je regardais ma gueule, je me disais, mais t'as une sale gueule, t'es pas bien. Et après, tu regardes encore les images de télé qui restent de cette époque-là, même en France. Et évidemment, j'étais un petit gros à bretelles avec des grosses lunettes, tu vois, et les cheveux longs.
Bah, le Roy Orbison français, en fait.
Ouais, mais plus féroce.
Plus féroce, plus rock'n'roll, peut-être encore. Il y a d'autres noms que je voudrais te soumettre, Bob. Je voulais savoir quels ont été tes rapports avec le boss de Dixie Frog, Philippe Langlois, pendant toute la période où vous avez travaillé ensemble. Parce qu'on parlait de ta discographie tout à l'heure. Il y a avec Dixie Frog quand même 8 albums, 15 années de collaboration tout de même. Libero en 2002, Rock on Reform en 2003, The Gift en 2005, Live in the Dockland en 2007, Time to Blast en 2009, Wild on Deep en 2011. C'est une compilation qui reprenait les titres d'une vingtaine d'années, et puis ensuite les albums de Little Bob Blues Busters, donc Break Down the Walls en 2012, Howling en 2015 et New Day Coming en 2018. C'est énorme, c'est pratiquement la moitié de ta vie discographique.
New Day Coming et le
tout dernier, non, il n'est pas chez Dixie Frog.
Non, Et le film qui s'appelle Working Class Hero, 2 ans, avec 2 disques, un live et un studio. Ça, c'était sorti, c'est le premier truc qui est sorti chez Des Records. Non, mais moi, Dixie Frog, on n'était plus chez EMI parce qu'ils exigeaient que je chante en français après Lost Territories.
Magnifique et incontournable chanson de Little Bob, Lost Territories. Nous sommes en 1993 chez Diggin' Diamonds sous licence Warner. On poursuit dans le 666 notre rencontre avec Little Bob. Quels ont été tes rapports avec Philippe Langlois, le boss de Dixie Frog, pendant toute la période où vous avez travaillé ensemble?
Un type extraordinaire. Philippe Langlois, c'est un mec extraordinaire. Et il m'a accueilli à bras ouverts et il m'a dit on signe disque par disque, tu vois. Et si comme ça, si t'es pas content ou tu trouves autre chose ailleurs qui soit mieux, parce qu'eux ne produisent pas les albums, ils acceptent les albums produits, tu vois. Et bon, et moi, j'avais mes revenus SACEM que ma femme mettait de côté, ma Mimi, et elle me disait, quand t'auras assez, si t'as besoin de faire un disque, t'as ce qu'il faut.
Voilà, et t'avais toujours de quoi faire un disque à l'avance, quoi, en fait.
Voilà, et donc j'avais toujours de quoi faire un disque qu'on faisait pas loin d'Alençon, dans la Somme. Et il y avait un ami qui avait un studio, on a fait pas mal de disques chez lui. Et un beau petit studio avec de la place, tu vois, des cabines et tout ça. Et donc, on a bien travaillé, quoi. Hein. Donc, c'est un mec bien, quoi, un type bien. Un type bien qui a fait tout ce qu'il a pu pour que... Après, bon, il allait fermer. Donc, il m'a dit, Bob, je vais fermer. Donc, ouais. Il faut que tu arrives à trouver autre chose. Et puis, j'avais la proposition de Dixie Frog. De Vericord,
voilà.
qui me disait, nous, on veut pas que tu sois comme Dixie Frog, aller faire faillite, aller fermer. On ne veut pas que tu restes sans boîte de disques, donc tu viens signer chez nous. Voilà. C'était sympa.
Complètement. Coup. Et puis c'est comme ça, voilà, c'est grâce à ça qu'on va avoir
le... Et donc ils ont produit, eux, le premier album... celui de New Day Coming qui est sorti.
Voilà, New Day Coming de 2018 que j'avais injustement crédité à Dixie Frog. Il y a d'autres aspects de ce que tu as fait et de ce que tu continues à faire peut-être dont j'aimerais qu'on parle pendant quelques minutes. C'est qu'en 2011, ça fait pile 10 ans, est sorti le film Le Havre d'Harry Korismäki, donc le Finnois, qui a obtenu le prix Louis de Luc. Il a fait partie de la sélection du Festival de Cannes en 2011 avec Jean-Pierre Darroussin. Oui, des apparitions de Pierre Hettet, de Jean-Pierre Léo. Je voulais savoir, 10 ans après, quels souvenirs tu gardais du tournage, de l'expérience du cinéma, et puis aussi savoir si tu avais d'autres projets dans ce sens-là pour l'avenir.
Non, je n'ai pas d'autres projets. J'aimerais bien retourner avec Aki Korismäki. En fait, c'est un type très très bien. C'est un type cool. Et il est venu, en fait, on avait joué en Finlande, nous, en 78, tu vois, il y a très longtemps.
Ouais.
Et lui, il était jeune, il était étudiant. On a joué à Tampere, dans sa ville, là où il était. Il n'avait pas pu nous voir le concert. Et quand il a dit qu'il venait au Havre faire l'album, son assistant français, Gilles Charmant, il me dit, si tu vas voir, il savait qu'il aimait le rock, qu'il m'aimait bien. Il lui dit, ouais, il y a Little Bob. Donc voilà, donc il a été heureux, il est venu me voir ici. Quand je l'ai accueilli sur le pas de ma maison. D'accord. Et il m'a dit, Bob, je t'amène à Cannes. On ira à Cannes.
Ah, voilà. Génial.
Il est venu voir un concert à Paris, c'était à la Boule Noire. Et il a aimé, il a écouté mes disques, il a préféré prendre Libéraux parce que ça parle d'un immigré qui vient vivre en France, quoi, à l'étranger. Mmh. Mais nous, sur l'album, on avait une autre chanson et je croyais qu'il allait prendre celle-là, c'était un truc plus black. Et il a choisi Libéraux, tant mieux, une chanson sur mon père. Et puis on a été évidemment à Cannes.
Et oui.
Ça, monter les marches à Cannes, c'était quelque chose. Le groupe était monté avant moi. Moi, je voulais monter avec mon groupe. Le groupe était monté avant moi, tous en costard et en smoking. Et moi, j'avais mon blouson rouge. et en fait, j'ai monté les marches.
Il faut garder ce souvenir fabuleux de la montée des marches avec ce
la
réalisateur.
Montée des marches avec Libéraux en tant que musique, tu vois. Pour monter les marches, il a mis la version de Libéraux qu'on a fait dans son film. Et tout le monde était debout dans la salle à la fin. Je pense qu'il aurait dû avoir un prix plus important, mais bon, ça fait rien. Il a fait ses 750 000 personnes en France, voilà. Et puis il passe de temps en temps, il passe sur Arte ou à la télé, quoi. Hein. Super, super. Belle aventure.
Très bien. J'ai d'autres noms à te soumettre. Et alors, il y a un musicien et puis il y a un couple, des gens qui sont proches de toi. Je voulais savoir quel rapport tu entretenais d'abord avec Dom et Nadia Sarraï-Lesaigne.
Ah ben, ce sont des gens que, déjà, Dom, on lui avait demandé de faire notre pochette. Tu vois, c'est un ami de Gilles Mallet. Et c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui travaille bien. Et après, quand j'étais chez Vericord, évidemment, j'ai arrêté de travailler avec lui parce que c'était autre chose, quoi. Et je pouvais plus avoir Nadia comme attachée de presse parce que l'attachée de presse chez Vericord, c'est quelqu'un d'autre. C'est dommage. Mmh. Parce que Nadia, elle travaillait sur des tournées, des concerts. Donc voilà, je regrette un peu ce couple-là parce que j'étais des amis, quoi, en plus.
En plus, ouais,
c'est bien de pouvoir travailler avec des amis, même s'il y en a qui disent que c'est pas possible de travailler avec des amis. Moi, j'aime bien.
Il y a un ancien musicien, quelqu'un qui a fait partie de ton équipe, qui s'appelle Olivier Durand, qui fait une belle carrière avec Elliot Murphy. Est-ce que tu l'as vu sur scène? Parce que je sais que tu fais partie des artistes qui vont voir les autres sur scène, qui vont aussi dans la salle de concert.
Ouais, non, mais j'avais eu une petite histoire à l'histoire de Crossroads. Crossroads à l'Olympia, tu sais, au concert. Et donc, Elliot Murphy, j'ai pas été voir. J'apprécie le mec, hein, c'est un bon musicien et un grand artiste, un grand créateur. Olivier, bah, il a perdu le truc blues qu'il avait avec nous.
Ouais, ouais, d'accord.
Et oui, il a perdu le côté blues. Mais c'est un excellent musicien, évidemment. Et quand il est parti rejoindre Elliot, moi j'ai appelé Gilles Mallet parce que Gilles Mallet est moi ce qu'on appelle un soliste, tu vois, qui montre bon, comment il joue, mais c'est un riffeur à la Keith Richards, tu vois,
c'est ça. Ouais.
40 ans, il a joué 40 ans avec moi, il y a 40 ans qu'il joue avec moi. Après, il y a eu des moments où quand j'étais aux États-Unis, il n'était pas là. Et quand j'ai eu Olivier Durand, à l'époque, pendant une dizaine d'années, il venait des fois faire des trucs, des bœufs dans des concerts importants où on avait besoin de soutien parce que lui, c'est un sacré guitariste qui tient le temps. Et puis, donc, ça fait longtemps, quoi. C'est un peu mon bras droit. C'est un mec très, très bien. Il a de la famille... dans le Cotentin, voilà. Mais lui, il était à Évreux. Il est Montpelliérain, mais il était à Évreux. Et ensuite, il est venu vivre au Havre avec la Story. Voilà, c'est un mec bien, c'est un bon guitariste, c'est un mec qui tient le tempo comme personne d'autre.
Gilles Mallet, le riffeur. On parlait de Bertrand Couloum à la contrebasse, il joue un grand rôle dans tes disques, principalement bien sûr avec les Bluesbusters. Et on s'en rend compte d'ailleurs dans le titre album par lequel tu ouvres ce disque We Need Hope. Bertrand Couloum à la contrebasse, Mickey Blow à l'harmonica, et puis ton neveu Jérémy Piazza ou Mathieu Poupard à la batterie, deux batteurs différents, ainsi que Nicolas Noël au piano. Voilà, pour toute l'équipe, ce sont des musiciens qui s'apprêtent à t'accompagner également sur scène, toute cette équipe-là.
Tout le temps, dès que ça sera possible.
Voilà.
Moi, mon neveu, parce qu'il joue dans un groupe de jazz qui marche très très bien et qui a énormément de concerts à faire, donc comme Mathieu le remplaçait tout le temps, d'ailleurs c'est Mathieu qui joue sur 10 titres sur 13 sur l'album, par exemple Minidope, c'est lui qui fait les tambours. Et quant à Bertrand Couloum, il a joué, ça fait 30 ans qu'il est là, tu vois, je suis fidèle, moi.
Ouais.
Les gens que j'aime et qui jouent avec moi et qui le font avec plaisir, je le reconnais, donc je les garde. Quant à Nicolas Noël, le clavier, il a joué 17 ans avec moi, après Lost Territories. Donc il a fait Blue Stories, il a fait tous les albums chez Dixie Frog, hein. Et puis quand j'ai créé les Blues Bastards, évidemment, je pouvais pas l'avoir en plus. Et puis là, je l'ai repris. C'est un clavier exceptionnel, hein. Et donc il prend un peu de place à Mickey Blue à l'harmonica. Tiens, Mickey, j'ai une mauvaise nouvelle. Il a une crise cardiaque, il est à l'hôpital.
Merde. Alors on va croiser les doigts pour Mickey, alors oui, effectivement.
Ouais, ouais.
We need hope for a change. Everything is going wrong, damn, damn bad. We need hope and a big change. Gotta break down the codes of this mad, mad world. We need a change.
Bob, j'ai quelques questions comme ça que j'ai sollicitées auprès de quelques amis qui t'aiment bien, qui te connaissent bien. J'en ai 5 en tout, si tu veux bien. La première, elle est de Alain Angelbert, qui me demande de te demander, avec le regain d'intérêt pour le support vinyle, est-ce que tu auras envie de rééditer les 2 premiers albums de Little Bob Story ?
Bah, ils ont été réédités, je crois.
Il y a longtemps déjà, non ?
Oui, il y a très longtemps.
Ouais.
Très longtemps.
Parce que là, pour les trouver, à moins de tomber sur quelqu'un qui le revend très cher, enfin voilà,
ouais. Bah, on va y penser, parce qu'il y a la boîte qui a sorti Lost Territories, qui a fait Blue Stories, et puis qui a sorti aussi Libéraux
est ressorti,
double vinyle,
ouais.
Et GM, Gig in Diamonds. Et ils font du très bon boulot, alors peut-être que je vais réussir à sortir ces albums-là.
Très bien.
J'aimerais bien aussi, quoi.
Une autre question d'Alain Angelbert qui demande, que penses-tu des programmateurs musicaux proposés par programmateurs musicaux qui sont proposés par les médias nationaux, voilà, les gens qui passent des disques à France Inter, RTL, Europe 1, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de leur travail ?
Bah écoute... Ils passent tellement de trucs que je n'aime pas, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors là, maintenant, alors c'est trop, quoi. Parce que pour cet album, il y a un truc qui se passe. La boîte de disques m'a fait venir. Jeudi, il y a un papier qui va sortir dans Paris Match.
Ouais.
Paris Match sont venus au Havre, tu vois. Et puis là, pour l'instant, je n'ai. Il y a qu'un type qui m'a fait faire des belles émissions. C'est RTL. C'est la nuit, donc c'est. Tu vois, comment il s'appelle
Georges Lang.
Voilà, Georges Lang. Mmh. J'ai même fait des émissions spéciales où c'était moi qui programmais.
Ça, c'est génial, ça.
Et là, il avait du coup des gens qui appelaient, qui disaient waouh, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Et puis, c'est évident que France Inter, avant on y avait droit, maintenant il n'y a plus droit, tu vois, parce que il ne passe plus que ce qui marche, quoi. Et c'est pareil pour Europe 1, pour toutes les grosses radios, quoi. Mais je m'en fous, quoi. On vit notre vie, on fait avec ce qu'on a, et puis ce qui compte, c'est que les gens soient là quand on fait du live, et que moi je suis heureux comme ça, quoi. Et, tu sais, on peut pas tout avoir, hein.
Une autre question de Daniel Siméon qui te demande si en dehors de la musique, tu as des passions, d'autres passions que la musique dans la vie.
Ah, oui, j'aime bien le cinéma, j'aime bien les bouquins, mais il y a une passion qui est très forte. Hein. Et c'est quand j'avais l'âge de 5 ans, mon père m'a amené au football.
D'accord.
À Alessandria,
ouais.
Tu vois, dans ma ville. Et depuis, je suis fan de foot.
Le foot, le cinéma, les bouquins et puis,
J'aime bien le foot
ouais,
Surtout que je peux voir le championnat italien sur BeIN, tu vois. Voilà, et donc il y a des bons matchs, quoi. Il y a quelques bons matchs. Le HAC, faut pas trop en parler, même s'ils ont battu Caen récemment.
Le HAC, c'est quand même le plus vieux club de France en matière de foot. Hein. Je crois que c'est la toute première fois qu'il y a une ville qui a décidé de créer un club de football. C'était le HAC.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est le club ancien, le premier, quoi.
C'est ça.
Ouais. Ce qui compte le plus maintenant pour moi, c'est la musique, quoi.
Évidemment.
Depuis que ma Mimi n'est plus là, avant, je me séparais entre Mimi et ma musique. Là, c'est la musique, il n'y a plus que ça. Et le drame, c'est qu'on ne peut pas jouer pour l'instant.
Tu l'as compris, les questions de mes amis, il en reste deux, elles sont un peu disparates. Michel Barat va t'amener en 1964 ou 1965. Il se souvient que tu as joué à Caen, dans le quartier de la Grâce de Dieu. Il a fait ta première partie avec son groupe de l'époque. Alors lui-même ne se souvient plus si c'était les Watts ou les Dracars. Est-ce que toi, tu en aurais le souvenir? Tu parlais de Caen en tant qu'amateur,
ouais,
tu faisais des tournées un peu en coin.
Je me souviens très bien de la salle à Caen là, dont tu m'as parlé.
La Grâce de Dieu.
Parce que, parce qu'on venait, puis on jouait aussi à Villerville, on jouait, tu vois, on faisait plein de petits concerts, mais on était petits, quoi, on était amateurs.
Bien sûr.
Bien sûr, j'ai toujours mis du feu dans tout ce que je faisais, moi. Tu vois, je pouvais pas faire. Je veux dire, à partir du moment où t'aimes, tu ne peux pas laisser passer inaperçu la musique, quoi. Donc, je me suis toujours battu pour que ça soit le mieux possible. Mais bon, ça n'a rien à voir avec maintenant, quoi. Hein.
Christian Esther te demande si tu te souviens de la compilation Blues Against Racism, donc initiée par lui-même en 99. Il te remercie encore pour ça d'ailleurs. Il te dit également qu'il t'a vu dans le public parisien devant un concert de John Hiatt. Il sait que tu vas en voir d'autres, si c'est pas le cas de tous les musiciens, je te disais tout à l'heure. Voilà, cette compilation de 1999.
Je suis très heureux d'en faire partie, parce qu'en fait... Il m'avait demandé un truc blues et moi, je n'avais pas un truc typiquement blues à l'époque. Depuis, j'en ai eu pas mal. Mais j'ai filé une version de la chanson que je dédiais à Martin Luther King. We All Have a Dream. Et en fait, ils ont fait un truc super, c'est que si tu peux le trouver, tu l'as ce truc ou pas?
Bien sûr, complètement.
C'est cool parce que ma chanson, elle ouvre le disque.
Exactement.
Et en premier, il y a Martin Luther King qui parle.
Tout à fait.
Et carrément, là, tu mets le son, là, et puis t'as le frisson. Sur les bras et t'entends la voix de Martin Luther King et puis après il y a nous et à nous derrière et en plus je parle de ça et c'est le blues. Moi je fais du blues des fois qui n'a pas forcément les trois accords de mesure du blues.
Ouais, complètement, ouais.
Mais le blues il est partout dans ma musique.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Et puis, il y a eu un discours de Martin Luther King en 1965-66, par là, qui parlait d'un rêve qu'il faisait qu'un jour, noir et blanc puisse marcher dans la rue, main dans la main. Malheureusement, ce rêve n'est toujours pas réalisé, ni aux États-Unis, ni même en France, dans ce pays de bonheur et de bien-être, où ces enfoirés du Front National essayent de foutre la merde. C'est une chanson pour la fraternité, pour la solidarité et pour l'amour. Ça s'appelle We All Have a Dream. Si vous pouvez chanter sur les refrains, ça nous fera particulièrement plaisir. For justice, time of solidarity. It is time for truth. The world is full of refugees.